France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Éloi Laurent, économiste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'approche traditionnellement retenue par les économistes pour mesurer le bien-être humain est axée sur les ressources dont chacun dispose et qui sont généralement estimées en termes de revenus monétaires, de biens ou encore de consommation individuelle de biens et services. Toutefois, bien que les ressources apparaissent comme un élément essentiel pour le bien-être, elles sont aussi nettement insuffisantes. Le bien-être de chacun dépend de ce que ses ressources lui permettent de faire ou d'être, mais l'aptitude à utiliser ses ressources pour se construire une bonne vie varie selon les personnes. Déterminer la meilleure façon de mesurer la qualité de la vie requiert le choix de certains critères méthodologiques en mettant l'accent sur les personnes, sur ce qu'elles jugent important dans leur vie quotidienne ainsi que sur l'environnement dans lequel elles évoluent. Cela consiste aussi à reconnaître les différences et les inégalités de conditions humaines et enfin d'axer les critères méthodologiques sur la situation présente plutôt que sur la qualité de vie des générations futures. Voilà ce qu'écrivaient en 2009 trois économistes, Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, réunis dans un ouvrage intitulé « Vers de nouveaux systèmes de mesure ». Leur ambition, disait-il, était de proposer un produit intérieur brut qui ne se contente pas de mesurer l'activité économique marchande, mais de prendre également en compte la mesure de toutes choses, performance, bien-être et qualité de vie. Ils voulaient que la société se reconnaisse davantage dans l'image que lui renvoie d'elle le miroir des données statistiques. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Que représentent ces trois noms pour vous ?
Alors, ces trois noms, et dans ce livre, qui en anglais avait un très beau titre, qui était « Mismeasuring our lives », donc « Mal mesurer nos vies », et l'idée, c'était comment mieux mesurer nos vies. Et là, vous avez l'alliance, en fait, de trois sommités du monde économique, mais de trois penseurs qui viennent d'horizons différents, mais qui ont tous pensé contre l'économie de leur temps. Fitoussi pense contre l'idéologie néolibérale qui s'est emparée de l'Union européenne au début des années 90. Joseph Stiglitz va démissionner avec fracas de la Banque mondiale au début des années 2000 pour dénoncer la pensée orthodoxe dans les grandes institutions internationales du consensus de Washington, que sont la Banque mondiale et le FMI. Et Amartya Sen, dès les années 70, va commencer à développer des théories comme la théorie du fou rationnel, qui consiste à dire qu'en fait, la rationalité telle appréhendée par les modèles microéconomiques est totalement trompeuse parce que notamment l'être humain est profondément empathique et que les modèles économiques n'arrivent pas, l'homo economicus n'arrive pas à saisir cette capacité d'empathie qui nous renvoie au début de la pensée économique avec la sympathie d'Adam Smith. Donc c'est en fait deux penseurs, trois, qui sont révoltés contre l'économie de leur temps. Et c'est la caractéristique de tous les grands économistes.
Et vous n'avez pas répondu à ma question. Ils vous ont donc beaucoup inspiré également.
Ah oui, bien sûr. Ah bah, complètement. Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, pour deux d'entre eux, j'ai vraiment travaillé avec eux. Bien sûr, Jean-Paul Fitoussi, mais aussi Amartya Sen, avec qui j'ai travaillé quand je suis passé par Harvard à son livre L'idée de justice. Joe Stiglitz, on s'est croisé, mais je n'ai pas à proprement parler de travailler avec lui en dehors de cette fameuse commission. Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous ayez mis ces trois-là ensemble, parce que parfois on parle de la commission Stiglitz, et en fait, c'est vraiment la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, et pour tout dire, c'est la commission Fitoussi-Stiglitz-Sen, en fait, dans l'ordre où elle s'est vraiment constituée.
Cette idée, justement, Éloi Laurent, que vous défendez également, d'un indicateur qui aille au-delà donc des revenus ou des biens et qui mesure donc la qualité de vie des personnes, il ne s'est toujours pas imposé aujourd'hui dans nos sociétés. Pourquoi ?
Alors, c'est plus qu'un indicateur. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre sur ce champ, qui est le champ du dépassement de la croissance ou de la sortie de la croissance. On a pensé pendant longtemps que la question, c'était d'aller au-delà du PIB, beyond GDP, et que la question, c'était remplacer un indicateur dominant par un autre indicateur ou une batterie d'indicateurs. Je crois qu'il faut vraiment sortir de cette idée. La question, c'est que c'est les visions qui sont derrière ces indicateurs qui doivent être modifiées. C'est pour ça que maintenant, le champ s'appelle la post-croissance, beyond growth, au-delà de la croissance, parce que ça va bien au-delà de la question des indicateurs.
Alors, pour autant, on n'y est pas.
Non, on n'y est pas, et en même temps, je crois qu'il est raisonnable de dire que la post-croissance n'a jamais été aussi puissante aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la publication académique. Vous avez des papiers ces dernières semaines dans Science, ouais, dans le Lancet Planetary Health, etc. Donc vous avez maintenant des centaines de chercheuses et de chercheurs qui publient dans les meilleures revues du monde. Dans le champ des politiques publiques, vous avez un comité de haut niveau qui a été mis en place aux Nations Unies ces derniers mois pour réfléchir à la question de la santé et de la croissance.
Ça reste théorique ?
Non, ça reste pas théorique, c'est que... Alors, il y a des expériences pratiques et locales. Par exemple, ce qu'on fait avec Chloé Vidal à Lyon autour de la boussole du bien-être. Là, vous avez une municipalité qui s'engage dans le fait de rassembler une convention citoyenne autour de la définition du bien-être par les citoyennes et les citoyens de la ville de Lyon et du fait de faire entrer ces nouvelles conceptions du bien-être dans le budget et la manière dont on fait les politiques publiques. Donc là, c'est complètement révolutionnaire et c'est très pratique et c'est territorial, etc. Donc vous avez en fait un débat qui se déploie à toutes les échelles. Et je pense que vraiment, il est raisonnable de dire que on n'a jamais été aussi proche de la désacralisation de la croissance du point de vue académique, du point de vue du débat public et du point de vue des politiques publiques.
Mais pourtant, elle vit toujours aussi bien, la croissance, hein, pour l'instant, et elle se défend ardemment.
Elle résiste.
Elle résiste. Vous êtes donc économiste, Éloi Laurent, spécialiste en macroéconomie européenne. Vous travaillez sur le développement soutenable. On va en reparler et on va dérouler le fil de votre parcours pour comprendre aussi ce qui a nourri votre réflexion et vos convictions. Dans quel milieu social est-ce que vous êtes né en 1974 ?
Dans quel milieu social ? Alors, je suis né, disons, du point de vue de mon parcours personnel, ce qui a compté, je pense, c'est que mon père est un psychanalyste lacanien, donc un psychanalyste qui a construit avec et après Jacques Lacan, les causes de l'école de la cause freudienne en France.
Éric Laurent.
Éric Laurent. Et il a été vraiment très proche, en fait, de Lacan. Il a vraiment joué un rôle très important dans la constitution de l'école de la cause freudienne. Et il compte beaucoup dans la pensée psychanalytique française. Et je crois que ça m'a donné alors d'abord une interrogation qui est, ou un questionnement qui est comprendre la structure du langage. On va pas dérouler tout le parcours de Lacan, mais Jacques Lacan, c'est quelqu'un qui arrive dans un monde post-freudien et qui, en 1960, dit l'inconscient est structuré comme un langage. Donc il va, à partir des travaux de Ferdinand Saussure, inscrire la psychanalyse et la théorie de l'inconscient dans la linguistique, avec l'idée qu'on a des signifiants qui sont très puissants. Je voudrais juste vous en donner une illustration, de ce qu'est avoir des réflexes lacaniens. Prenons un terme au hasard, la croissance. Un lacanien va s'amuser avec le terme de croissance, qu'il va prendre comme un signifiant. Vous pouvez dire c'est un signifié qui est l'indicateur de l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, donc l'augmentation du flux de biens et services échangés sur des marchés avec des prix en termes réels. Ça, c'est la réponse d'un économiste. Le réflexe lacanien, c'est de jouer avec le mot croissance, croyance. Donc, croître ou vouloir croître, c'est croire en quelque chose. Donc, mobiliser un imaginaire qui est l'imaginaire de la croissance. Et puis, vous pouvez dire, mais la croissance, finalement, quand est-ce qu'on en entend parler la première fois dans sa vie ? Là, hier, j'ai vu le livret de ma fille, et il y a marqué, elle maîtrise la notion de croissance.
Elle a quel âge ?
Elle a 8 ans et demi. Donc, vous imaginez ma terreur. Ma fille de 8 ans et demi maîtrise la notion de croissance. Pourquoi ? Parce que la courbe de croissance qu'on lui a fait apprendre, c'est la courbe qui relie la taille et le poids. Et c'est la première courbe de croissance que vous rencontrez quand vous avez des enfants, vous allez chez le pédiatre et on vous dit bah, la croissance est bonne puisqu'elle s'inscrit dans la distribution normale quand on rapporte la taille. Donc la croissance, c'est en fait un concept biologique que l'économie s'est approprié. Et donc l'imaginaire dont il est question, c'est l'imaginaire de la croissance biologique, donc l'imaginaire de la santé. Et ça vous renvoie à ce moment-là au physiocrate, à François Quesnay, l'économie comme un corps humain et tout l'imaginaire de la santé. Et juste, ça veut dire que si vous voulez déloger la croissance, il va falloir aller chercher cet imaginaire-là. Et c'est pour ça que la question de la santé est la grande chose que l'on peut opposer à la croissance.
Sauf que ça raconte quoi de vous, Éloi Laurent ? Ça raconte quoi de votre parcours d'enfant de psychanalyste, justement ?
Ça raconte cette interrogation sur la structure du langage et sur le fait que l'inconscient est structuré comme un langage, mais que l'inconscient économique aussi est structuré comme un langage. Donc sur la volonté de comprendre à la fois la puissance des mots, ce que disait Keynes quand il disait les hommes pratiques d'action pensent qu'ils agissent, mais en fait ils sont agis par des pensées économiques. Donc la puissance de l'inconscient économique dans le débat public, ce que j'ai appelé la grammaire de la politique, et en même temps le fait qu'il faut se méfier des mots. Parce que en fait l'exercice cérébral que je viens de faire ne vaut que s'il s'accompagne de l'expérience de l'empathie. Et ça, ça m'est venu par la branche maternelle. Donc il y a d'un côté l'idée de comprendre la structure du langage, et de l'autre, il y a l'idée de faire l'expérience de l'empathie.
Vous avez 7 ans lorsque Jacques Lacan est mort. Est-ce que vous en avez un souvenir particulier ou pas du tout ?
J'ai le souvenir que mon père était très triste. Donc d'une très grande tristesse. Je crois que c'est une figure extrêmement marquante et qui était presque une figure familiale. Donc il y avait un cercle de gens, et je me souviens d'avoir vu des très grandes tristesses chez mon père de cette perte. J'avais pas, moi, de rapport avec Jacques Lacan.
Est-ce que vous diriez que grandir dans un environnement psychanalytique, c'est quelque chose de particulier ? Et est-ce qu'un parent psychanalyste est plus doué, selon vous, pour éduquer un enfant et pour comprendre sa psyché ?
On est dans quelle émission ?
C'est la Terre au carré, mais ça va nous amener sur le front de l'écologie.
C'est le divan.
Non, on va y arriver.
Alors, la psychanalyse, et c'est important de le rappeler en ce moment précis, dans un débat budgétaire où on veut dérembourser la psychanalyse, alors que les services de psychiatrie sont paupérisés, sont extrêmement affaiblis et que la demande n'a jamais été aussi forte pour le soin mental.
Mais on ne rembourse pas la psychanalyse en France, psychiatrie.
Il y a aussi des formes de remboursement de la psychanalyse, et donc je crois que la psychanalyse est un humanisme. C'est-à-dire que ce que ça vous donne comme idée, c'est qu'en fait, il y a des gens qui souffrent, que la souffrance psychique, c'est pas la folie, que le traitement humain de la souffrance psychique, c'est fondamental dans une société, et par exemple, dans le fait de traverser une crise comme le Covid, et de comprendre aujourd'hui qu'il y a une crise de santé mentale absolument massive en France, et qu'on a absolument pas les services qui permettent d'y répondre. Voilà, ça vous donne ce genre de réflexe-là. Donc à la fois le réflexe qui est à la fois comprendre la puissance du langage, se méfier des signifiants, et en même temps aussi comprendre fondamentalement que l'être humain est un être psychique et que la souffrance mentale est une souffrance très sérieuse.
Donc ça, vous le devez à cet environnement particulier.
Oui,
en fait,
je pense, oui.
Ouais. Et sur l'éducation, alors, est-ce qu'on est un meilleur parent quand on maîtrise la psychanalyse par rapport à ses enfants ou pas, à votre avis ?
Alors, moi, je ne la maîtrise pas, donc c'est difficile, il faudrait demander ça à mon père. Mais en tout cas, ça vous donne l'idée une fois de plus, que par exemple, la parole d'un enfant compte. Si un enfant vous dit quelque chose, d'abord il faut écouter ses enfants, il faut être très attentif à la parole des enfants, et ensuite il faut essayer de la comprendre et de la restituer, et voilà, et d'être patient avec ça, avec l'idée que la parole d'un enfant prend toutes sortes de formes. Donc je pense que ça vous donne de bons réflexes, en fait.
Et Loi Laurent, lorsqu'on est un jeune garçon, est-ce qu'on rêve un jour de devenir économiste, comme on peut rêver d'être pompier ou...
Alors, non. Enfin, moi, je rêvais pas du tout d'être économiste. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui rêvent d'être économiste, peut-être plus aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, j'ai aussi grandi à un moment où les économistes n'avaient peut-être pas le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Donc, moi, il m'a semblé, en fréquentant Dauphine, Sciences Po, que l'économie était un langage de pouvoir et qu'il fallait essayer de maîtriser ce langage de pouvoir pour comprendre quelque chose au monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent d'être économiste. Moi, je rêvais pas d'être économiste.
Alors, qu'est-ce qui vous a emmené sur la route de l'économie, précisément ?
C'est une espèce de composition. Je pense qu'au lycée, il y a une espèce de composition qui s'est faite entre mon goût pour la philosophie, pour l'histoire et pour la biologie. Et en fait, j'ai par hasard tenté le fait que ce produit de synthèse entre ces trois disciplines, c'était peut-être l'économie. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'université Dauphine, et j'ai trouvé un enseignement de l'économie qui était extrêmement intéressant, divers, varié, à bien des égards meilleur, je pense, que ce qu'est l'enseignement de l'économie aujourd'hui, notamment parce qu'on parlait d'histoire de la pensée économique, etc.
Voilà. Mais c'est un sens de parler de l'économie au singulier, d'ailleurs, tellement les courants aussi sont différents et existent. Il y a comme une certaine diversité, non, aussi au sein de l'économie ?
Alors oui, il y a une diversité qui est réprimée de façon féroce. Par exemple, dans l'université française, ma collègue Florence Janicatrice a montré à quel point on essaye d'uniformiser, d'homogénéiser, en fait, l'économie. Et c'est pour ça que je disais qu'au vu de précisément les travaux de Florence Janicatrice, on se dit que l'économie est sans doute beaucoup moins riche et diverse qu'elle ne l'était quand moi j'ai eu la chance de faire de l'économie, de commencer l'économie. Donc,
Le bien-être, l'écologie également, associé à votre travail d'économiste Éloi Laurent, on va en parler dans un instant. Vous êtes notre invité au carré.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. L'écologie nous apprend qu'il existe de nombreux types d'écosystèmes.
Nous devons comprendre que pour une gouvernance efficace, il faut une grande diversité de systèmes d'organisation. Or, nous cherchons sans cesse à appliquer un modèle idéal. Et nos recherches démontrent justement que ce modèle ne fonctionne pas. Le nombre de règles élaborées par les populations locales, les méthodes qu'elles utilisent sont immenses et cela ne doit pas changer. Nous devons donc revoir en profondeur notre façon de penser, car nous cherchons des formules simplistes pour tout et c'est précisément ce qui nous freine.
La voix du prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, à l'instant, Éloi Laurent, cette politologue économiste américaine, qui compte aussi d'ailleurs dans votre parcours.
Ah, immensément. On est vraiment dans le cœur du cœur des gens qui m'ont influencé. Donc j'ai eu également la chance de travailler avec elle, comme tous les très grands esprits que j'ai pu croiser, elle était d'une incroyable humilité.
Est-ce que c'est elle qui vous a fait imbriquer justement l'économie avec l'écologie ou pas?
C'est une des deux personnes, en fait. C'est pas l'économie et l'écologie, c'est le social et l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre social-écologie que j'ai fait paraître en 2011 est vraiment à la confluence de deux influences. C'est-à-dire, il y a d'un côté James Boyce et le rapport entre les inégalités et les questions écologiques, et de l'autre, Elinor Ostrom, et la question de la gestion soutenable des ressources naturelles par les communs. Et là, ce qu'elle dit, Lynn, c'est le fait que autant il y a une biodiversité, autant il faut qu'il y ait une diversité institutionnelle. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nous sommes dans des systèmes de monoculture institutionnelle où il n'y a qu'une seule façon de faire des entreprises, qu'une seule façon de faire de l'économie, qu'une seule façon de coopérer, qui est en fait une collaboration efficace et rentable. Et ce qu'elle dit et ce qu'elle a recherché, c'est l'incroyable richesse des formes humaines de coopérer, de la coopération sociale. C'est vraiment son sujet, la coopération sociale. Et en travaillant avec elle sur
ça... Mais en lien avec la transition écologique
bien
aussi,
sûr,
c'est ça.
Bien sûr, tout est lié. Absolument. C'est-à-dire qu'elle commence en fait ses études doctorale par la question de l'eau en Californie, et ensuite ça va la conduire à étudier les systèmes, donc les institutions humaines qui arrivent parfaitement de manière soutenable à gérer des ressources naturelles à travers le monde. Et elle va construire la théorie des communs avec un livre majeur de 1990 qui est Gouverner les communs, qui répond au pessimisme de Gareth Hardin sur la tragédie des communs. Et voilà. Et donc nous on s'est croisés au moment où, quand elle reçoit le prix Nobel, c'est la première femme à recevoir le prix Nobel, il y en a eu deux depuis, il y en a trois en tout sur 100 lauréats, d'accord, d'un prix, voilà, 2009. Et on a commencé à travailler sur la traduction française. Moi, j'avais réussi à obtenir par la Fondation Nobel le droit de traduire sa conférence Nobel. Et on a commencé à échanger sur... et dans sa conférence Nobel, en fait, il y a toute son œuvre. Et donc, ça m'a permis de me plonger avec elle dans son œuvre, la signification de son œuvre, etc. Et c'est d'une puissance absolument extraordinaire. Mais juste pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui, par exemple, arrive à mettre au jour la manière dont les communautés autochtones parviennent à préserver la forêt amazonienne, alors que l'État brésilien les donne en pâture aux multinationales et détruit la forêt amazonienne. Donc, il y a des clés dans l'œuvre d'Elinor Ostrom qui nous permettent de sauver la forêt amazonienne.
C'était toute la dissonance de la COP30 à Belém, d'ailleurs.
Exactement.
Avec les peuples autochtones, et d'un côté, qui défendaient leur forêt, et puis de l'autre côté, Lula, qui effectivement donnait des gages aussi à ce commerce.
Alors que Lula ouvre la COP30 à Belém en disant les deux sujets sont étroitement liés, puisque évidemment la forêt amazonienne est un des nœuds de la biosphère et que donc est ce qu'on appelle les points de bascule. Donc si jamais la forêt amazonienne évolue vers la savanisation, on va prendre immédiatement 0,5 degré, 1 degré. Et ensuite, il y a des effets de rétroaction climatique qui peuvent déclencher des réactions en chaîne dans la biosphère. Donc c'était fondamental de lier les deux. Il y a des scènes dans lesquelles les communautés autochtones tentent de forcer l'entrée.
C'est vraiment l'image qu'on retient de la COP30.
Oui, exactement. C'est l'image que m'ont donné des étudiants là récemment dans une présentation. Je trouvais ça formidable. Vous avez des communautés autochtones qui viennent porter le sujet de la justice au cœur des instances climatiques, et ils sont reçus par des cordons de police.
Éloi Laurent, la Sécurité sociale fête cette année ses 80 ans. Pour en parler avec vous, je vous propose d'écouter cette archive de 1946. On y entend Ambroise Croizat, alors ministre du Travail.
Nous avons en discussion un texte qui tend à généraliser par palier la sécurité sociale à toute la nation française. Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendu par tout le pays. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux.
Le 4 octobre 1945, donc, dans l'élan du Conseil national de résistance, la création de la sécurité sociale, 8 décennies plus tard, Éloi Laurent, ce modèle, ça reste un pilier de la solidarité nationale ?
Ah, je crois que c'est la colonne vertébrale de la société française. Je crois qu'il n'y a aucune institution, on parlait de bien-être humain. On a commencé par la citation sur le bien-être humain. Je pense qu'il n'y a aucune institution dans l'histoire de ce pays qui a plus fait pour le bien-être humain que la sécurité sociale. Donc moi, à chaque fois que j'entends des pseudo-économistes, des journalistes de pacotille expliquer que la sécurité sociale, c'est un problème pour la croissance économique, ça me fait hurler. C'est-à-dire que la sécurité sociale, c'est vraiment l'institution la plus géniale qui a jamais été inventée dans l'histoire de France, et c'est celle qui a le plus fait pour le bien-être humain. Et Ambroise Croizat, c'est très émouvant parce que c'est quelqu'un qui rentre à l'usine à 13 ans et c'est quelqu'un qui mourra 5 ans plus tard de ce discours-là d'un cancer. C'est quelqu'un qui va mourir à 50 ans et précisément qui n'aura pas l'occasion de pouvoir bénéficier de cette mutualisation des risques qui permet de remettre en cause l'incertitude du lendemain qui, selon les termes de l'ordonnance de 1945, constitue un sentiment d'infériorité pour les travailleurs. Et donc, Croizat lui-même, et il y a un destin complètement contrasté d'Ambroise Croizat et de Pierre Larocque sur ce plan-là. Et donc, la sécurité sociale, c'est vraiment... Alors, quel rapport ça avec la question écologique et avec Elinor Ostrom ? Bah, c'est qu'aujourd'hui, les crises écologiques, en fait... font naître de nouveaux risques sociaux. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait avec des collègues à Sciences Po, Bruno Palier, Anne-Laure Bossier, Tom Chevalier, Aurore François-Soleil, etc. C'est vraiment d'arriver à comprendre qu'on est rentré dans une ère qui est l'ère des risques, du risque social écologique.
Au point donc d'imaginer une nouvelle sécurité sociale.
Au point d'imaginer...
Qui soit plus écologique.
Oui, mais ce que fait un rapport du Sénat, c'est pas complètement une idée folle. En fait, il y a plein d'institutions qui travaillent à ça. Et il y a un rapport du Sénat français en 2022, qui propose de créer une sécurité sociale et écologique pour le 21e siècle, avec à la fois le fait de repenser complètement les risques écologiques pour les mutualiser, c'est aussi ce que fait un rapport publié par France Stratégie au début de l'année, et puis d'envisager des nouvelles frontières de socialisation, comme la question de l'alimentation, avec le projet de sécurité sociale alimentaire. Donc on est au cœur de la question des communs, là.
Donc c'est aussi un outil, effectivement, pour lutter contre les inégalités sociales aussi, ce serait pour prolonger...
Mais fondamentalement, c'est ça que fait la sécurité sociale. La sécurité sociale, en fait, substitue au triptyque qui est le triptyque incertitude, insécurité, injustice, le triptyque risque, mutualisation et solidarité. Et on a aujourd'hui de nouveaux espaces à socialiser.
Ouais. Pourquoi on diabolise la sécurité sociale aussi aujourd'hui, puisque effectivement, vous le disiez, on la critique énormément, les dépenses abyssales, on la juge sur un fil, la dette, etc. Pourquoi, à votre avis, en fait alors que ce système, effectivement, a fait ses preuves quand même, non ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont des gens, en fait, qui répètent à l'envi des critiques qui présidaient à l'existence même de la sécurité sociale, de la même manière que les gens qui critiquent aujourd'hui la taxe Zucman reprennent des arguments qui ont été opposés pendant très longtemps à la création d'un impôt sur le revenu en France. Donc l'idée de la cistanat, de la paresse, enfin il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est les arguments qu'on a opposés pendant des décennies au fait de créer la protection sociale. Sauf que quand on l'a fait, on a commencé à le faire en France en 1898, et on l'a fait avec encore plus de puissance en 1945, on a mutualisé les risques sociaux, on a réduit les inégalités sociales, on a réduit toutes les inefficacités économiques. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un pays dans lequel il n'y a pas cette mutualisation et de ce que ça veut dire, regardez les États-Unis. Regardez l'état de la santé aux États-Unis, regardez ce que coûte le système de santé aux États-Unis, et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi la sécurité sociale est tellement précieuse.
On en parlera tout à l'heure, puisque vous êtes aussi professeur à Stanford. Encore un mot sur justement cette idée de sécurité sociale écologique. Est-ce que certains pays ont déjà fait le premier pas là-dessus ou pas ? Est-ce qu'il y a des exemples inspirants en ce moment ?
Alors, c'est une
dans le fait de considérer les risques nouveaux liés à l'écologie et à l'environnement ?
Alors, c'est une très bonne question. On peut en débattre. Moi, j'ai l'idée que pour la première fois en 2025, cette année donc, a été passer la première loi de protection sociale écologique de l'histoire sous la forme du congé climat qui a été décidé en Espagne, mis en œuvre à la suite des inondations tragiques de Valence. Et qu'à ce moment-là, on a fait basculer le modèle de protection sociale espagnole vers ces nouveaux risques. Voilà. Mais on peut discuter de savoir si c'est vraiment le point de départ. Pour moi, c'est le point de départ et je pense que ça va appeler en fait une série de réformes de notre protection sociale dans cette direction.
C'est reçu comment en France cette idée ? C'est très exotique, la sécurité sociale écologique ?
Pas du tout. En fait, c'était très exotique. Mais vous savez, comme le croisement de la question sociale, la question écologique, il y a 15 ans, il y a très peu de gens qui travaillaient là-dessus. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de rapports. Vous prenez le rapport du Haut Conseil sur le climat, de France Stratégie, de l'IGAS, de l'assurance maladie. En fait, plein de gens sont en train de réaliser qu'il faut croiser ces questions sociales et ces questions écologiques. Mmh. Et évidemment, pourquoi ? Parce que je pense que les gilets jaunes ont vraiment, en fait, constitué un tournant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a vraiment compris qu'il était impossible de penser les politiques environnementales sans la question sociale, et qu'à l'inverse, la question, la politique sociale seule, en fait, était insuffisante à saisir ces nouveaux risques. Donc je pense que les gilets jaunes ont accéléré cette prise de conscience.
Éloi Laurent, notre invité au carré.
France Inter. La Terre au carré.
Éloi Laurent, économiste, vous êtes notre invité cet après-midi. Plein de questions encore jusqu'à 15h pour vous, autour de l'actualité, et qui font d'ailleurs écho aussi à vos travaux. Aujourd'hui, on fête les 10 ans de l'accord de Paris quand même, hein, 12 décembre 2015, après deux semaines de négociations intenses, un accord donc géopolitique majeur était conclu à Paris pour limiter le réchauffement climatique. Quel bilan vous tirez, vous, de cet accord de Paris 10 ans plus tard ?
C'est compliqué de tirer un bilan, parce que on peut pas dire rien ne s'est passé à Paris, et au vu de l'échec actuel empirique, c'est-à-dire concrètement, l'échec empirique c'est quoi ? C'est qu'en 2025, les émissions mondiales ont augmenté de 1,1%. Elles auraient dû atteindre un pic en 2020. Donc ça veut dire que sur cette période de 10 ans qui s'est écoulée, il y avait un rendez-vous qui était 5 ans après, le fait d'avoir des émissions mondiales qui commencent à baisser, oui, et une crise climatique qui commence à pouvoir être atténuée. On est à 1,1 % de croissance des émissions, et elles repartent notamment parce qu'elles repartent aux États-Unis. Donc si on se remet dans l'idée de l'accord de Paris, qui en fait a été négocié un an plus tôt entre Barack Obama et Xi Jinping, qui ont permis que les négociations aboutissent à Paris, on se dit on est dans le sens exactement inverse de l'histoire. Mais j'en reviens à la question de la croissance. Si vous regardez la décomposition de ces émissions de CO2 et la raison pour laquelle elles ont augmenté encore depuis 10 ans, le facteur principal, c'est la croissance économique. Donc tant qu'on ne sera pas sur la question de la sobriété, que moi j'appelle la satiété, et qu'on pensera que ça va se faire par du technosolutionnisme, de l'efficacité énergétique, etc., on n'y arrivera pas. Mais décomposer les émissions, vous verrez à l'œil nu le rôle de la croissance économique.
Alors cet accord de Paris, ce sont aussi des plans climat élaborés par chaque pays, hein. Donc c'est une mise en œuvre totalement dépendante du bon vouloir justement des États. Est-ce que c'est pas ça sa grande faiblesse ?
Oui, mais c'était la faiblesse qui visait à corriger l'échec de Copenhague. Donc si vous regardez le travail de Laurence Subiana, il y a un documentaire qui a été fait sur comment on a tiré en fait la leçon de l'échec de Copenhague, qui était vouloir partir d'un objectif général pour distribuer ensuite des plans. Là, on est parti des plans pour essayer de faire la comptabilité, et effectivement, ces contributions volontaires se révèlent insuffisantes. Mais une fois de plus, la question fondamentale dans la crise du climat, comme dans celle de la biodiversité, comme dans celle des écosystèmes, et elle est de plus en plus apparente dans les travaux de toutes les grandes instances internationales, c'est l'obsession de la croissance économique. Si on ne se concentre pas sur le cœur du réacteur de la crise écologique, qui est la question de la croissance, on arrivera absolument à rien résoudre. Ouais.
Donc c'est quoi ? C'est le capitalisme aussi quand même.
C'est le capitalisme nourri à la croissance, c'est exactement ça. C'est ça la force de la thèse de Jean-Baptiste Fressaud, c'est-à-dire quand il dit il y a pas de transition et dans un
empile,
titre, voilà, alors dans un titre encore meilleur qu'il a trouvé pour la traduction anglaise de son livre qui est More and More and More. C'est vraiment un superbe titre, an all consuming history of energy. Bon, et donc More and More and More, c'est ça, c'est l'empilement. Pourquoi ? Parce que la force motrice, c'est la croissance, évidemment. Et donc, la seule transition énergétique, c'est la sobriété.
La post-croissance, ça veut dire quoi exactement, Éloi Laurent ?
La post-croissance, ça veut dire arrêter de gouverner nos économies par un indicateur qui est le produit intérieur brut, qui a été inventé en 1934 par Simon Kuznets, qui a dit quand il l'a créé qu'il n'était pas un indicateur de bien-être. Donc la post-croissance, c'est l'ensemble des courants qui se sont développés depuis 2008 en particulier, même s'il y en a qui sont antérieurs à ça, comme la décroissance, mais depuis 2008, vous voyez vraiment dans la littérature trois courants qui se développent. Il y a la décroissance, Il y a l'économie du donut et il y a l'économie du bien-être. Voilà. Et c'est ça la post-croissance.
Et vous, vous êtes un économiste post-croissant ou un économiste écologique ? Comment est-ce que vous pourriez vous présenter pour préciser justement les termes ? Parce que vous n'êtes pas que économiste.
Alors, si c'est purement disciplinaire, je fais de l'économie écologique, c'est-à-dire que l'économie écologique a été inventée dans les années 80 comme un contrepoint à l'économie de l'environnement néoclassique, puisqu'il y a une manière néoclassique, orthodoxe, standard de faire de l'économie de l'environnement. Mm-hmm. L'économie écologique, elle se concentre sur l'interdisciplinarité, sur l'importance des questions sociales et sur le dépassement de la croissance. Et ensuite, mes champs, c'est d'un côté la social écologie et de l'autre la post-croissance.
Éloi Laurent, vous avez enseigné à l'université Stanford aux États-Unis, donc dans la Silicon Valley en Californie. Vous étiez professeur invité. Aujourd'hui, vous enseignez pour cette université, mais à Paris. Est-ce que vous y êtes toujours invité d'ailleurs sous l'ère Trump ? Est-ce qu'on peut encore faire de l'économie écologique dans une université américaine ?
C'est une vraie bonne question et ça se pose malheureusement pas que pour les universités américaines. Je discutais avec un étudiant indien hier qui me révélait que la politique de répression du gouvernement Modi sur la question de la recherche en matière de climat dans les universités indiennes est absolument hallucinante. Donc on a partout en fait une répression universitaire, une répression de la science, une répression du savoir, une répression des connaissances.
Quand on sort de l'orthodoxie en fait.
Quand on sort de l'orthodoxie et... Alors, à Stanford, il y a des chercheurs et des chercheuses de très très haut niveau sur ces questions-là, et il y a même une nouvelle école qui a été créée autour de la question de la soutenabilité. Mais en même temps...
Le mot n'est pas interdit encore aux États-Unis ?
C'est pas interdit, mais il y a du chantage. L'université d'Harvard, dans laquelle j'ai également enseigné, est en train aujourd'hui d'essayer de négocier avec l'administration Trump, et c'est sur le mode de la négociation mafieuse. C'est-à-dire que l'administration Trump dit « Vous allez interdire les étudiants internationaux, vous allez nous donner le contrôle absolu de ce qui est enseigné, vous allez faire des cours qui sont favorables aux valeurs américaines, donc on oublie l'esclavage, etc. Vous allez arrêter d'embêter les gens avec l'environnement qui pourrisse leur mode de vie, et à ce moment-là, vous aurez accès au financement fédéral. » Or, ces universités, qui sont des universités privées, dans le cas d'Harvard et Stanford, dépendent énormément des financements fédéraux. Elles ont aussi du capital privé, mais elles dépendent énormément des contrats de recherche. Donc ça veut dire, en fait, concrètement, des centaines de millions de dollars que l'administration Trump utilise comme monnaie d'échange pour imposer une espèce de vérité d'État dans les universités, c'est-à-dire la fin des universités.
Et vous arrivez encore à enseigner la post-croissance au sein d'une université américaine, même si c'est à Paris.
Oui.
Vous arrivez encore à le faire.
Sans aucune difficulté, les étudiantes et les étudiants adorent. Et donc voilà, le jour où je recevrai un mot me disant, cher monsieur, votre enseignement est anti-américain et donc on refuse désormais que vous puissiez corrompre notre jeunesse, je ne le ferai plus.
Quel regard vous portez sur justement la politique économique de Donald Trump aujourd'hui?
C'est une catastrophe. Je suis d'ailleurs très étonné qu'en France, on ait commencé par chanter ses louanges. Je me souviens d'articles qui paraissaient sur le mode « Trump fait une politique audacieuse qui vise à reprendre le contrôle de la question de la mondialisation, etc. » C'est une catastrophe intégrale. C'est une catastrophe parce qu'on a tout simplement tous les prix qui explosent. Donc la vie devient tout simplement impossible pour 80% d'Américains, du fait de l'explosion des coûts de la santé parce que Obamacare est défait, du fait de l'explosion des prix alimentaires parce qu'il n'y a aucune régulation et du fait des tarifs qui font que il y a des choses qui commencent à coûter 20, 30, 40% plus cher. Bon, ok. Donc c'est un transfert de richesse des consommateurs américains vers l'État américain et vers directement le cercle du président qui utilise les tarifs pour gagner de l'argent personnellement.
Donc c'est de la corruption.
Sa fortune explose. C'est absolument de la corruption. Et de l'autre côté, vous avez une bulle spéculative sur l'intelligence artificielle qui tire très largement les soi-disant performances mirifiques de la bourse américaine, qui sont concentrées sur quelques entreprises, dont Nvidia qui vient de dépasser un certain montant de capitalisation, et qui va exploser. Donc on a vraiment, et toutes les décisions... Alors, c'est tellement vrai que maintenant, les États-Unis décident de ne plus publier les chiffres. Donc vous avez désormais des attaques qui sont faites contre les agences statistiques. Par exemple, le Bureau of Labor Statistics, qui est connu depuis très longtemps comme étant une très bonne agence de statistiques sur l'emploi, qui ne peut plus faire son travail, en fait. Parce que, tout simplement, on a viré sa directrice et que les économistes y travaillent sous les injonctions d'administration.
Et alors, si on fait un peu de prospective, par exemple, quand on est économiste et qu'on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, on se dit quoi alors, que le pays va s'écrouler sur lui-même ou pas? Ou est-ce que ça peut être tenable?
Alors, il y a différents scénarios. Le scénario le plus vraisemblable à ce stade, qui est évidemment mon scénario de préférentiel, mais sans doute que mes, que mes convictions rejoignent mes intérêts, comme dirait La Rochefoucauld, mais c'est que, en fait, c'est le système économique qui va en partie de se débarrasser de Donald Trump. C'est-à-dire que cet homme qui prétend être un génie économique, etc., est en train de faire s'effondrer l'économie américaine et qui a des intérêts tels en jeu que, en fait, à la fois les Américains et un certain nombre aussi d'institutions vont lui infliger un démenti cinglant au moment des élections de mid-term l'année prochaine. Voilà. Il y a un autre scénario qui est que face à cette révolte sur la question de l'inflation et sur la question de l'économie, il y a un durcissement vers une fascisation qui soit encore plus radicale que celle que l'on observe. Et si vous regardez le discours que Trump a fait hier, qui était censé être sur la question centrale désormais de affordability, c'est-à-dire le fait d'avoir accès à une vie décente, tout le discours a été fait sur le racisme. Tout le discours a été fait sur le fait que certains Américains viennent de pays qui, je cite, sont des ordures, sentent mauvais, etc., etc.
L'Afrique, donc, hein, hashtag l'Afrique.
Voilà, donc la communauté somalienne, notamment à Minneapolis, etc., etc. Donc vous voyez le déplacement, et donc évidemment, on n'est pas du tout prémunis contre ce scénario de fascisation, et qui peut aller d'autant plus vite que la situation économique se dégrade.
Est-ce que les économistes commencent à prendre au sérieux le coût de l'inaction climatique, Éloi Laurent, aujourd'hui? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi,
oui,
quand même.
Hein. Alors oui, il y a un économiste de Stanford qui a d'ailleurs obtenu un prix cette année, qui montre en fait que le coût social du carbone, donc c'est-à-dire le coût économique du fait de ne pas résoudre la crise climatique, est 8 fois plus élevé que ce qu'on pensait. Donc il y a vraiment une sortie du déni qui est très tardive, mais qui est indéniable, de la part d'un certain nombre d'économistes qui commencent à comprendre en fait que les coûts sont vertigineux. Mais attention, il faut se replonger dans le fait que depuis 40 ou 50 ans, vous avez des économistes comme William Nordhaus qui ont anesthésié le débat en faisant croire, par l'illusion de la croissance, qu'en fait, ça allait bien se passer.
Ouais.
Voilà. Donc on est en train de sortir de ce déni. Et
est-ce que l'économie, elle a la capacité de penser à long terme, justement? Est-ce que c'est une de ses qualités ou pas du tout, précisément?
Ah oui, bien sûr. Je veux dire, on parlait de Keynes, par exemple. Keynes, c'est quelqu'un qui a attaqué, en fait, David Ricardo, qui est un économiste classique anglais, sur le fait qu'il était trop concentré sur le long terme. Et Keynes dit, à long terme, nous serons tous morts. Donc, vous avez, en fait, l'école classique anglaise, par exemple, qui est vraiment la pensée du long terme. Donc, l'économie est capable de penser long terme, même avec des variables techniques comme le taux d'actualisation, l'économie est capable de rendre matériel des coûts dans un avenir très lointain. Mais il faut absolument y intégrer la question de la justice sociale, parce que sinon, on est dans des discours qui sont totalement abstraits.
Est-ce qu'on est capable, selon vous, de sortir de cette économie obsédée par les chiffres, justement, pour essayer d'aller vers une économie du vivant? Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Hein.
Économie du bien-être, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, la question, c'est comment? Et là, je pense qu'il faut essayer de construire des nouvelles alliances. Et ce qu'on essaye de faire avec ma collègue Aurore Francelet, ce qu'on a fait cette année, avec un site web qu'on a mis en ligne sur l'économie du bien-être, c'est construire une nouvelle alliance entre la post-croissance, le monde de la santé et du soin, et le monde du vivant. Et là, on a une chance de dépasser cette économie complètement bunkérisée.
Merci beaucoup Éloi Laurent d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Merci.
Je renvoie sur
c'est
l'un de
plaisir.
Vos derniers livres, ça s'appelle « Pour l'État social écologique, le bel avenir de l'État-providence ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci.